Ludo Live, l'émission en live depuis Ludovia.
Éducation.
Numérique.
Actu.
Outils. Expérimentation.
Productivité.
Interaction. Innovation.
On n'a pas besoin, allez.
Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette première de Ludo Live pour 2016.
Ouais, super heureux, 2016.
2016, tout à fait.
Oula, c'est la partie de la journée.
Allez, on commence bien fort. 2019, la 16e édition de Ludovia, donc Ludo Live, deuxième du nom.
C'est ça, donc on est à Ludovia dans l'Ariège, en tout cas à Aix-et-Pierre. C'est plutôt beau parce que pour ceux qui étaient là hier, c'était un petit peu compliqué au point de vue météo. En tout cas, super heureux de remettre ça avec Seb, avec l'équipe des Teachers. On va essayer en tout cas sur deux soirées de présenter un peu nos coups de cœur un petit peu de Ludovia. On a deux personnes pour l'instant qui sont à côté de nous, on va pouvoir les présenter, et puis ça va arriver au fur et à mesure. Une belle édition en tout cas, très riche pour l'instant aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu en penses, Seb.
Oui, comme d'habitude, Ludovia, c'est un peu ça le problème. C'est extrêmement de richesse, extrêmement d'apport, le numérique sous toutes ses formes, mais parfois c'est un petit peu difficile à digérer. Il faut un moment, ça va toute l'année pour digérer, heureusement. Mais là, c'est très très condensé et on va essayer de s'en remettre tranquillement, mais on prend énormément de plaisir à être là.
Pour la petite histoire, Seb avait deux explorcans, donc deux présentations aujourd'hui, donc il était un peu dans le stress aussi. En tout cas, on est super content de recevoir du monde, ça arrive. Voilà, ça arrive même derrière nous encore. Installez-vous, on a des chaises un peu partout. Voilà, alors là, c'est les alias, ça s'installe. Laetitia, elle ne veut pas venir, elle est derrière moi, je vais donner son nom. Ouais, allez, pourquoi pas, allez, ça marche.
Hein? Normalement.
Même maintenant.
Ouais.
Ah oui, ouais, c'est comme ça. C'est salut le live. Il y a des gens qui passent, on les attrape. Donc on va commencer par Virgile où j'ai un peu attrapé tout à l'heure sur sa présentation un peu au vol avant de partir au bain pour vous raconter tous les secrets de Ludovia. Virgile, bonsoir déjà.
Bonsoir, merci pour cette invitation et merci pour la sélection coup de cœur, hein. C'est une fierté, un honneur, un grand plaisir.
C'est ça, donc tu as présenté toute une expérimentation dans ton établissement où tu vas pouvoir en dire un peu plus sur la réalité virtuelle. Déjà, qui est Virgile d'abord?
Qui est-il? C'est un poète de l'Antiquité à l'époque d'Auguste qui a écrit l'Énéide. Non, c'est une blague. Virgile, c'est en effet un poète, mais je n'ai pas ce talent. Je suis donc enseignant en Turquie à Istanbul. C'est un petit peu original, je viens d'assez loin, dans un établissement bilingue Label France Éducation qui s'appelle le lycée Saint-Benoît. Il y a 13 000 élèves issus du réseau de coopération en Turquie. C'est un pays très francophone. Et donc je travaille dans un de ces saints, dans un de ces lycées bilingues au programme turc avec des élèves turcs dont la moitié des enseignements sont en français et l'autre moitié sont en turc. J'enseigne le français, la littérature française, le FLE. Sur un mi-temps, mon autre mi-temps, je coordonne le comité développement recherche numérique qui a pour mission d'intégrer les nouvelles technologies dans l'éducation. Je suis notamment le coordinateur du printemps numérique international qui aura lieu le 21-22 février 2020. Avec la présence de monsieur Michel Reverchon-Billot qui fera la conférence d'ouverture, et je suis responsable du pôle réalité virtuelle et réalité augmentée et donc responsable d'un club ouvert il y a 2 ans.
Alors la VR, qu'est-ce qu'on peut en faire vraiment pour un prof de français ou de FLE?
Ah ben c'est la grande question, qu'est-ce qu'on peut en faire? Ben déjà qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Est-ce qu'on en fera quelque chose? C'est toute la question. En fait, mon intervention soulevait une de ces questions. Est-ce que la VR et l'AR, hein, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, associons-les, est-ce qu'elles deviendront une ressource de classe à part entière? C'est toute une question. Je vais vous citer deux chiffres. 700 millions de dollars investis aux États-Unis d'ici 2025, selon Goldman Sachs, et 60% du secondaire américain utilisera la réalité virtuelle d'ici 2021 selon Gartner Projects. Ça fait deux chiffres. Alors est-ce que ça va vraiment se passer comme ça? C'est la grande question. J'y crois, même s'il y a en effet des limites, des freins en termes de coûts, en termes de perturbations émotionnelles, en termes de socialisation, en termes d'application et évaluation. C'est compliqué de créer des contenus, c'est compliqué de transférer aussi des contenus vers la VR et la R. Mais je crois vraiment que c'est une expérience sensorielle forte, qu'elle permettra, via des émotions positives, notamment une meilleure mémorisation, ça a été prouvé sur une étude. Les professeurs de l'université de Warwick l'ont dit, c'est l'outil, selon une vaste recherche menée auprès d'élèves aux États-Unis, l'outil préféré des élèves avant le texte, avant la vidéo. Des études de Maryland montrent que le processus de mémorisation est plus efficace via la VR que via un ordinateur normal.
Et donc dans ton lycée, donc tu as expérimenté sur deux ans je crois, c'est ça?
Exactement, deux ans d'expérimentation, on a ouvert le club en septembre 2017. Donc c'est un club, il y a une cinquantaine de clubs. Nous c'est un club qui la première année s'est vraiment focalisé sur tout ce qui était vidéo 360, photo 360, création de contenu. La deuxième année, on est vraiment rentré dans la phase développement en mettant en place les techniques de photogrammétrie et notamment la société Matterport qui nous a aidé à scanner l'église de notre lycée. L'objectif aussi, un des objectifs, c'est vraiment le développement des 4C. Jean-Marc Mériot en parlait lors de la conférence d'ouverture du printemps numérique 2019. C'est à savoir développer sa créativité, développer son sens critique, développer la collaboration et la communication. C'est vrai que là, pour la créativité, co-construire des environnements virtuels, on le voit avec la VR, ça œuvre incontestablement dans cette direction.
Et la question, c'est est-ce que les outils sont déjà là pour tous les élèves pour développer un petit peu de la VR, ou ça reste encore un monde de geek, un monde compliqué?
C'est une excellente question. C'est un monde, oui, un peu de geek, un peu compliqué, tu as raison, même si certains géants, voire monstres, disons ce monstre, c'est un peu un monstre, Google est incontestablement des acteurs, c'est un membre du GAFAM, heureusement ou malheureusement, mais disons que c'est un des acteurs qui permet d'avoir des outils qui ne nécessitent pas d'être geek, je ne développe pas, je passe par des développeurs quand c'est nécessaire, donc moi je n'utilise que des outils accessibles à tous et facilement accessibles dans la classe. Donc Google le permet depuis peu via Tour qui permet de créer, de co-construire des environnements virtuels. C'est ce qu'on a fait pour un voyage à Paris. Les élèves en voyage à Paris ont co-construit une visite virtuelle de ce qu'ils faisaient via des points d'intérêt, via des descriptions, via des prises de vue pour les élèves qui étaient restés à Istanbul. Donc il existe des outils de plus en plus qui permettent de ne plus être geek pour l'exploiter dans la classe.
D'accord, en tout cas n'hésitez pas autour de la table hein, si vous voulez intervenir aussi, il n'y a pas de souci. Petite question, un exemple de ce que, voilà justement, un autre exemple de ce que tu peux faire avec la VR, avec tes élèves.
J'ai parlé du voyage à Paris, donc ouais. C'était une co-construction d'un...
Concrètement.
Des formations de leaders numériques qui, avant le voyage, se formaient à la prise de vue de photo 360. Également téléverser ces photos 360 sur justement Google Expedition. C'est aussi la formation de rédacteur puisque l'objectif était d'écrire des lieux, d'écrire des personnes, d'écrire des objets. Donc il y avait un groupe donc, de rédacteurs qui eux-mêmes devaient rédiger des contenus et ces deux groupes-là s'associaient, collaboraient pour ensuite créer une visite virtuelle que moi à Istanbul je menais avec les élèves qui n'étaient pas partis. Les élèves, je rentrais dans toutes les classes de préparatoire, ça s'adressait à des niveaux préparatoires, des élèves qui avaient un niveau de français A2. Donc je rentrais dans toutes les classes et je devenais le guide en exploitant le matériel pédagogique créé par les élèves qui étaient actuellement à Paris. Les élèves à Istanbul mettaient le casque, visitaient Paris et contrairement à ce qu'on peut souvent dire, ils n'étaient pas du tout immergés et passifs. C'était un cours de compréhension orale, d'expression orale avec l'objectif de description d'objets, description de lieux, donc des interactions permanentes avec les élèves. c'est un exemple. D'autres exemples, ça a été, ça c'est un peu plus geek, on a développé une application pour le printemps numérique qui en fait était une chasse au trésor composée de différentes scènes, de scènes en réalité augmentée et d'une scène en réalité virtuelle suite au scan de Matterport, donc une société qui développe des technologies de mapping, nous a offert entre guillemets l'église scannée en 3D. Et dans cette église scannée en 3D, on a fait revivre un prince hongrois via des chercheurs en histoire. On a pu approfondir ici sa vie, son parcours en Hongrie. C'était à l'époque de Louis XIV. Ce roi a été enterré dans cette église. On l'a fait revivre. Et donc il y avait une scène de réalité virtuelle. Et si on réussissait la scène, on obtenait un morceau de la carte au trésor et un code de la combinaison. On pouvait ensuite trouver le trésor caché dans le lycée.
Super projet en tout cas. Et si on veut est-ce que tout ce travail là est en ligne par exemple, ou c'est qu'on peut le retrouver?
Oui, une partie du travail est sur le compte. Oui, tout est posté sur le compte Instagram du CDRN, SPCDRN. Vous pouvez voir les vidéos, les photos de notre travail mené dans cet établissement. Au plaisir de vous revoir très bientôt.
Bon, bah super, un super projet en tout cas. Merci à toi Virgile.
Merci.
Si tu veux qu'on te laisse pour aller un petit peu.
Tu as des obligations là, ton.
Obligations corporelles.
C'est ça. Merci en tout cas. On va passer à ta droite.
Merci beaucoup, à très bientôt.
Au revoir.
Je vais reprendre le flambeau. Allez, vas-y.
Alors, elle est venue un peu à l'improviste, on l'a attrapée. Elle était là. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais sur ce Ludovia?
Bonjour, donc moi je m'appelle Charlotte Bruno, je suis enseignante dans le premier degré, professeure des écoles, et je suis ici pour représenter le dispositif EMC Partageons.
Bon, est-ce que tu peux nous présenter le dispositif EMC Partageons?
Alors EMC Partageons, c'est un dispositif d'enseignement moral et civique qui est porté par un collectif d'enseignants. Il a été créé par les enseignants pour les enseignants il y a 4 ans, suite au changement de programme, des nouveaux programmes de 2015, qui n'était pas accompagné de ressources institutionnelles, ou en tout cas très peu, et il y avait une nécessité d'accompagner les enseignants, de les aider à s'approprier ces nouveaux programmes et à les mettre en œuvre dans la classe.
D'accord, et je crois que tu appartiens à un collectif.
Oui, alors EMC Partageons, c'est un collectif d'enseignants qui fait aussi, que vous pouvez retrouver sous le chapiteau de TADAF, donc cri de classe. Activités et dispositifs associés.
Comment est-ce que vous articulez l'activité sur Twitter et l'activité de EMC Partageons? Quel est le lien, on dirait?
Alors EMC Partageons propose des séances pour traiter des thèmes d'éducation morale et civique. Et en fait, les séances sont toujours construites de la même manière. On commence toujours par une phase qui explicite le plan, puisqu'on est vraiment dans une démarche d'enseignement explicite où on explicite aux élèves quels vont être les objectifs de la séance, qu'est-ce qu'on va attendre d'eux, quels sont les critères de réussite. Ensuite, on passe par une phase individuelle où les enfants sont invités à réfléchir individuellement, puisque on sait que dans tous les groupes, il y a des phénomènes de leadership, donc on essaye d'inviter les élèves à réfléchir, à produire quelque chose. On les accompagne avec des supports qui peuvent être différenciés. On a beaucoup d'enseignants qui viennent de l'ASH, donc qui nous aident à proposer des choses qui sont, même pour les élèves, à besoin d'éducation particulière. Et à l'issue de cette phase de réflexion individuelle, on a une phase de réflexion collective. Donc ça peut être un débat, une discussion. Les élèves arrivent avec quelque chose à montrer. S'ils n'ont pas envie de parler, ils ont en tout cas leur support de réflexion individuelle à montrer au reste de la classe. Et à l'issue de cette phase de réflexion collective, il y a une phase de publication, de production, qui peut être faite sur les réseaux sociaux ou pas.
En direction d'autres établissements, c'est ça?
Voilà, donc on produit une petite phrase, on produit une affiche, on dessine. Pour les élèves non scripteurs, on peut tout à fait imaginer qu'ils font un dessin, qu'ils remplissent des bulles autour de personnages. Quand on travaille sur une thématique, par exemple sur le harcèlement, on peut remplir des bulles de pensée en explicitant les émotions. Et toutes ces traces-là, on peut soit les afficher dans la classe, dans les couloirs de l'école, et si on souhaite, on peut les tweeter, donc soit sur Twitter, soit sur EduTweet, avec la balise de la séance. Et la dernière phase, du coup, c'est la phase de visualisation, où on va aller voir, à l'aide de cette balise, ce qu'ont produit les autres classes. Et on a enrichi encore une fois la réflexion collective avec ce qui s'est passé dans le reste de la France, ou même du monde.
des écoles partenaires, en fait, c'est ça? Voilà. Plusieurs écoles partenaires ou c'est chaque fois un retour
Oui, on a énormément de classes inscrites. Là, pour l'instant, on a lancé les inscriptions cette année depuis 4 jours et on a 1700 classes inscrites.
Mais comment tu fais concrètement, toi? Tu peux pas publier et regarder 1700
Non, retours, en fait, voilà. on valorise les tweets, donc on les retweet, parfois on répond. Après, les enseignants qui choisissent de travailler sur Twitter ou sur Tweet, avec la balise, soit ils parcourent les tweets les plus récents, ou alors ils font une sélection et ils choisissent d'en proposer certains à leurs élèves pour alimenter la réflexion de la classe.
Joli, joli, joli.
Là, c'est dans le premier degré, c'est dans le second degré, pareil.
Alors, premier degré, donc cycle 1, cycle 2, cycle 3, on essaye à chaque fois de proposer des parcours différenciés. Et de temps en temps, on essaie de proposer des parcours cycle 4. Mmh. On essaye d'avoir des enseignants du cycle 4 qui viennent nous aider, parce que nous, on vient du premier degré. Donc, on n'est pas capable de toujours proposer une adaptation cycle 4. Mais dès qu'on arrive à avoir des profs d'op ou des profs d'histoire géographie qui viennent nous aider, on propose un parcours cycle 4.
D'accord, très beau projet.
Tout à fait.
Et si on veut en savoir un peu plus alors?
EMCpartageon.org et on est aussi présent sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook.
Waouh!
Vous êtes partout.
Voilà.
Merci.
Merci à vous.
Merci. On va passer à ta droite. Allez, on va continuer. Hein. Désolé Julien.
C'est pas grave.
Désolé.
On laisse les dames mort.
C'est ça. Séverine Debeau, représente le projet Problémateur. Alors là, on redescend, on a parlé du lycée tout à l'heure, puis là un peu de tous les cycles, et là c'est...
Qui est Séverine déjà?
Qui est Séverine? Voilà. Ça dépend de combien d'heures on dispose, mais donc je suis professeure des écoles, voilà, version officielle, donc professeure des écoles dans les Pyrénées-Atlantiques, et voilà, donc on vient parler de Problémateur, un projet collaboratif autour de la résolution de problèmes, donc ciblé maternelle CP, donc voilà.
Qui consiste alors?
Qui consiste à... en fait, il y a trois étapes dans le projet. Les enseignants sont, appariés voilà, en binôme ou trinôme, décident d'un thème commun de travail, donc soit de la numération, travailler sur les mesures, les formes géométriques, la programmation, enfin, vraiment c'est mathématiques au sens large et autour de la résolution de problèmes. Parce qu'on se rend compte, enfin, juste je fais le pourquoi de ce projet. Moi, il me semble important en tant qu'enseignante de maternelle de prendre aussi à charge une partie du défi de travailler ce domaine qui est très très peu travaillé. Alors, quasiment pas en maternelle, déjà peu en élémentaire, et on se rend compte que toutes les enquêtes PISA, etc., démontrent qu'il y a un vrai manque. Donc moi, j'étais convaincue qu'il y avait quelque chose à faire dès la maternelle. Voilà un peu la genèse du projet. Donc le projet consiste voilà, à ce qu'il y ait des classes binômes, donc autour d'un thème commun de travail. Il y a une première étape où chaque classe va s'entraîner, chaque enseignant va s'entraîner, je suis désolée, je suis un peu fatiguée. Va dans sa classe à s'entraîner avec une banque de ressources de problèmes avec ses élèves, donc créer en gros un habitus de la résolution de problèmes. Ensuite vient la phase de la communication avec l'autre classe. Et là, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir confronter les procédures. Donc se rendre compte que soit on s'est pris de la même façon pour retrouver la solution à un problème, au contraire, voir qu'il y a différents moyens d'y arriver et voir au final qu'il y a forcément une procédure plus experte. Et ensuite vient l'étape la plus intéressante, c'est de créer un problème qu'on va soumettre à sa classe partenaire. Voilà, donc c'est vraiment.
Tu vas proposer un problème à la classe partenaire, c'est ça?
Tout à fait.
C'est le réseau et vice versa.
Exactement. Donc on s'entraîne, on communique, on échange sur les procédures et à la fin il y a vraiment un projet final de création de problème.
Voilà, la production c'est le projet final.
Voilà.
D'accord. Tu as dit une classe partenaire, la classe partenaire elle est sélectionnée comment en fait?
Alors c'est le choix des enseignants qui vont dire voilà par exemple moi j'aimerais travailler pour cette période là sur la programmation et j'essaye d'apparier des classes qui ont la volonté de travailler sur un même thème.
D'accord.
Et c'est des classes qui peuvent être réparties partout en France ou même dans le monde. Donc ce qui est intéressant aussi c'est les volets un peu bonus du projet, c'est qu'on va pouvoir travailler avec une classe à Tahiti. J'entendais parler de Turquie tout à l'heure, on a eu des classes turques aussi. Donc c'est aussi intéressant pour s'ouvrir au monde. Voilà.
Alors, et toujours via Twitter, c'est ça les personnes, alors, pas forcément.
C'est né sur Twitter il y a 4 ans maintenant, mais j'ai ouvert iDuTweet aussi. Et également laisser la possibilité aux enseignants qui le souhaitaient de travailler uniquement par mail. Ah. Puisque hélas, nous avons encore trop peu de trucs de classe en maternelle. Voilà, donc ça reste un projet assez libre.
Bravo, c'est vrai que tu as un panel de portes d'entrée qui laisse pas mal de liberté. Bravo.
C'est ça, c'est une sorte de canevas et là-dedans, les enseignants ont une certaine liberté pour dans les échanges et la façon dont ils veulent travailler.
Alors, il y a peu de communication sur les projets en maternelle, justement. C'est pour ça aussi que je suis venu te chercher aussi.
C'est un peu mon cheval de bataille, c'est de se dire qu'il y a tellement de choses à faire en maternelle et je crois que les enseignants de maternelle n'osent pas assez. Donc c'est de se dire on va pas attendre l'élémentaire. Il y a aussi plein de choses à faire des plus jeunes âges.
Je me permets un petit aparté pour ceux qui se demandent pourquoi il y a une musique depuis tout à l'heure. Ce n'est pas Jeff qui fait ses vocalises. Je le dis tout de suite, il y a un magnifique apéro pas loin. Alors, bien entendu, on fait ça dans les conditions du direct pour ceux qui nous écoutent. Jeff, vas-y, je t'en prie.
Pardon, je t'ai pas écouté. Je
t'avoue, on n'a pas écouté. Voilà,
elle était si on veut en savoir plus, donc justement, oui. Sur
donc,
le projet.
Problématère.com, il y a un site. Voilà, et puis aussi évidemment sur Twitter, assez présent, @problémataire, vous pouvez trouver très facilement.
L'école, l'enseignant qui vous souhaite, prend contact et il s'inscrit.
Voilà, s'inscrit, c'est de la période 2 à la période 5, donc 4 périodes d'inscription différentes, on s'inscrit pour une période. Et voilà, on fait en sorte de trouver votre partenaire idéal pour travailler en résolution
de problèmes.
Vous occupez
de partenaire. D'accord.
Et c'est un projet aussi TADAF.
Et petite question, combien y a-t-il de personnes derrière ce beau mais lourd projet quand même?
Eh bien, je suis là. c'est un peu. C'est pour ça que j'ai des cernes et que je suis un peu fatiguée. Non, le but ce serait de pouvoir déléguer aussi, d'avoir des gens qui m'aident à porter un peu le projet. Parce que ce qui est dur justement, c'est cette partie-là de pouvoir apparier des classes. Ensuite, c'est assez libre, je laisse aux gens la possibilité de s'organiser comme ils le souhaitent, donc c'est plus léger ensuite, mais c'est ouvert, avis aux...
J'ai une question un peu piège, justement, l'institution là-dessus, ton IEN, je sais, etc., elle s'intéresse à ce genre de projet, quoi, maintenant.
Aïe.
C'est en oubli, l'institution.
Non, c'est... J'ai eu la chance d'avoir une jolie communication et de plus en plus sur les réseaux annexes institutionnels, je vais en parler juste après. Mais voilà, le café pédagogique, Bénélu, le magazine La Classe. Donc le projet est vraiment en train de prendre de l'ampleur, ça gonfle. Donc j'en suis très très contente parce qu'il y a un vrai besoin. Et justement, je pense que le relais institutionnel est en train d'arriver. Voilà, donc
comme d'habitude, à son allure rapide.
Non, puis quand ça touche souvent les petits sur les droits à l'image, les droits à la production, on a toujours un peu peur, tu vois. Je pense qu'ils prennent des gants.
Là, je sais que j'arrive dans une nouvelle circonscription et justement, on va, je crois, en entendre un peu plus parler de ce projet. Enfin, je l'espère.
On te le souhaite, franchement.
Mais merci beaucoup à toi. Hein, je me retourne. Et Julien qui a été très sage, il a attendu. Julien, donc je vais te laisser te présenter aussi.
Alors je suis Julien Crémou, je suis professeur des écoles à Nuit Saint-Georges en Côte d'Or. Je suis en cycle 3 CM1 CM2. Je participe à des projets TADAF de toute classe. Et en fait depuis 2 ans j'ai participé à 2 projets autour de l'utilisation pédagogique de Mindtest en classe.
Oui, alors Mindtest, dis-moi, parce qu'on entend souvent Minecraft, Mindtest.
Bon. Alors Mindtest, c'est le même principe que Minecraft, c'est la même origine, parce que c'est un jeu de bac à sable construit avec des blocs de 1 mètre cube, qui a pour origine un film mineur. Le principe de Mindtest, c'est que c'est le même jeu que Minecraft, sauf qu'il est libre, il est gratuit, et il est surtout modifiable. Ça veut dire qu'on peut créer des choses, on peut créer ses blocs, on peut fabriquer tout un tas de choses, dans Mindtest qu'on ne peut pas forcément faire dans Minecraft, et puis c'est gratuit.
Alors oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Minecraft Edu, justement, ou de la version Edu. Là, Mindtest, il faut y aller, tu mets les mains dans le cambouis là un peu là, pour mettre ça en place ou non.
Alors, c'est pas forcément. Alors, pour ceux qui ont démarré, moi j'ai suivi un projet l'année dernière grâce à une collègue Sandrine Descombes qui, elle, avait commencé toute seule dans sa classe et qui a fait un peu tout toute seule, qui m'a bien accompagné, qui m'a permis de me lancer. Et en fait, le fait de participer, de faire des projets sur Mindtest, on s'est dit qu'il fallait partager. Donc, tout ce qu'on fait en termes techniques, en termes pédagogiques, en termes d'outils, eh ben, on a décidé dès le départ de le partager donc via un G-Doc au départ, via une chaîne YouTube où les élèves ou nous on a produit des choses. Et depuis quelques jours, dans le cadre du projet que j'ai présenté aujourd'hui, de carrément grâce à notre DAN et de l'Académie de Dijon, d'avoir un site internet académique dans lequel tous les projets et toutes les ressources qu'on a autour de Mindtest, que ça soit pédagogique, technique ou de visite, vont être à disposition à partir de maintenant.
Déjà toujours en classe, quoi, c'est ça?
Alors les,
ça,
élèves,
question,
alors, les élèves jouent en classe, c'est-à-dire que quand on dit ça, c'est exactement ce que les élèves se disent sur le jour où je leur présente le projet en septembre. Sauf que au final, c'est un aspect super motivant, le fait de savoir qu'ils vont pouvoir jouer, même si c'est pas que jouer, puisqu'en fait, ils vont à un moment donné passer sur le jeu, mais que c'est pas l'étape primordiale, c'est pas l'étape la plus importante, et que ça va être en fait une étape qui va être la production finale, puisqu'on va avoir tout un tas de projets où on va produire des choses, et qu'au final, plus que d'avoir fait un texte ou fait une belle présentation, on va aussi construire et modéliser quelque chose qui correspond à notre projet. Mais ça permet d'avoir un fil conducteur et de créer une motivation qui fait que tout ce qu'on aura fait en amont, en préparation, va faire que les élèves vont s'engager. Le plus, c'est de pouvoir construire et de s'amuser à faire quelque chose à la fin.
Justement, qu'est-ce que tu as réalisé sur Mindtest pour cette année avec
les
élèves ?
Cette année, l'année dernière, ayant participé à un projet où on avait créé une ville en géographie, moi le vivant, ce projet, j'ai trouvé l'outil Mindtest pédagogiquement super intéressant. Je me suis dit, je voulais relancer un projet. Je travaille depuis plusieurs années avec le musée de ma ville et on avait un échange dans le cadre de Canopée, la classe L'œuvre, la possibilité d'échanger autour d'une œuvre d'art afin que les élèves en deviennent les médiateurs. Le musée de notre ville s'occupe des ruines d'un temple gallo-romain. Et découvrant qu'on pouvait construire n'importe quoi, je me suis dit pourquoi pas essayer de réélever le site gallo-romain et de réélever le temple. Sauf qu'au lieu de le faire tout seul, je me suis dit vivant un projet collaboratif pas à trois, c'était super intéressant. Plutôt que de le faire tout seul, je vais le faire et le proposer à d'autres personnes. Et j'ai 9 personnes qui ont accepté, on est parti à 10. Ce qui fait qu'on n'a pas construit un site, mais on a 17 sites qui ont été modélisés cette année.
D'accord, donc les élèves concrètement, ils partaient de quoi ?
Alors les élèves, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est découvrir le projet, mais c'est surtout en fait découvrir le site du patrimoine qu'on va devoir finalement modéliser. Et en fait, faire une visite comme on fait une visite pédagogique. D'accord. Mais à la fin de la visite, habituellement, on fait un retour, on fait peut-être un texte. C'est pas très utile, sauf que là, l'idée, c'était que les élèves en deviennent médiateurs. Donc on va pas faire juste un texte, il faut que ça soit un texte qui soit... clair, complet, qui puisse être même peut-être de l'ordre scientifique. Nous, on a eu la chance de travailler avec le musée et on a eu des retours, ils nous ont corrigé. Donc les élèves avaient l'objectif, avant de construire, de produire au moins deux documents. Un document historique sur l'histoire du site et un document sur l'architecture, c'est de quoi il est fait ce bâtiment, pourquoi il y a tel type de matériaux, pourquoi il y a tel type de pièces, comment il a été fait, dans quelles conditions, pour que en fait, les élèves en deviennent un petit peu des experts et puissent, par ces documents, partager ça avec le plus grand nombre. Et au final, se dire qu'il y a une troisième étape, c'est passer à l'étape mathématique. On va aller sur le site, on va aussi prendre des mesures, on va mesurer les bâtiments, on va utiliser Géoportail pour faire des mesures via satellite. Et puis, via des photos, on va essayer de reconstruire sur une grille de petits carrés qui représentent les cubes du jeu. On va essayer de faire chacune des façades sur un plan avant de la reconstruire dans le jeu. Et là, les élèves vont avoir à réfléchir avec les enseignants pour avoir les bons cubes, pour savoir comment je fais une vitre, comment je fais le mur. Alors, sachant qu'un mur gallo-romain, c'est pas la même chose qu'un mur de la Renaissance. Ouais. Donc, c'était réfléchir à ça. Et les élèves vont partir là-dessus et élever les différents bâtiments. Et ça, on a élevé les bâtiments et on va encore plus loin puisque les élèves vont proposer, et c'était l'objectif final, c'était de proposer carrément une frise chronologique immersive. Donc au final, les élèves, quand ils avaient fait chacun leur site, chaque classe a fait un site sur un seul serveur. On a tous travaillé, les 200 élèves, au même endroit, sur le même serveur. Et on a fait une frise chronologique puisque les sites représentaient différentes périodes. Avec des téléporteurs qui nous permettent aujourd'hui, quand vous arrivez sur cette liste de marché, d'être envoyé dans le site. Et il y a deux modes de visite, soit vous visitez comme dans un musée librement et vous vous baladez,
soit les élèves ont aussi produit des affichages comme dans un musée et vous avez la possibilité de visiter ces sites. Donc il y a des sites actuels, il y a des sites de toutes les époques, il y a des sites qui aussi n'existent plus, donc moi mon temple gallo-romain, mais aussi le château par exemple du Louvre à l'époque médiévale de Philippe Auguste.
D'accord. Ouais, ça fera très très riche, vous avez plein de disciplines entre en jeu.
Voilà, c'est etc. tout plein de disciplines, ouais. Tout plein de compétences. Et puis bah, le final aussi qu'on a eu, c'est qu'on a eu l'occasion de présenter, enfin chaque classe qui a travaillé séparément, on a eu l'occasion de faire un congrès où toutes les classes, enfin 8 classes sur 10 se sont réunies. Et comme un congrès scientifique, chaque classe a présenté pendant quelques minutes son projet, a présenté ce qu'ils avaient fait, ils ont eu le temps d'échanger et de pouvoir discuter autour du projet. Et l'occasion surtout de visiter ce que les autres avaient fait.
Oui, ça aussi.
Et au final, ce qui a été décidé, c'est de se dire qu'à partir d'aujourd'hui, via le site qu'on a fait autour de Mindtest, la visite est disponible pour qui le veut. C'est-à-dire qu'on donne l'accès à visiteurs, à qui le veut. Donc on donne des codes, les conditions pour pouvoir installer le jeu, c'est très simple. Et puis après, vous êtes visiteur, donc vous pouvez pas casser et construire, c'est déjà ça.
Ouais.
Mais vous pouvez visiter et découvrir tout ce qui a été fait. Je marchais sur la frise.
Justement, là, entre plusieurs classes, comme ça, comment gérer cette partie un peu collaborative, d'aller voir les...
Alors, moi,
je parlais de casser, des choses comme ça, tu vois, c'est des choses.
Et bah, ça, c'est des découvertes. Alors, ouais. ça a été beaucoup de découvertes pour les enseignants au départ.
Ouais.
C'est qu'il a fallu que chacun se lance dans le jeu et ça essaye.
Donc, il faut que l'enseignant soit joueur aussi au départ pour connaître le jeu.
Alors, voilà. Non, pas forcément. Non, pas forcément. Parce que moi, il y a une collègue qui, de fait, n'a quasiment pas utilisé elle. C'est ses élèves qu'on
a fait partir, d'accord.
Voilà, on peut ne pas être compétent.
Ah, okay.
Sur les 10 qu'on était cette année, 8 personnes n'avaient jamais touché au jeu il y a un an.
Okay.
Ne savaient même pas ce que c'était.
Ouais.
Et vont plus ou moins l'utiliser, ou les élèves vont se l'approprier. Par contre, ils ont forcément à un moment donné essayé parce qu'il faut se confronter à certaines choses. Ouais. Mais les élèves, et c'est là l'intérêt, c'est que les élèves sont super compétents parce que c'est des jeux qu'ils utilisent.
Ouais.
Et en fait, ils vont aussi des fois nous former, nous informer, nous expliquer. Et ils se mettent en valeur. Voilà, ils mettent en valeur leurs compétences. Et il y a une collaboration entre élèves, il y a une collaboration entre enseignants. Et il y a une collaboration entre les enseignants.
Parce que toute la classe était sur le même édifice, par exemple, mais ils avaient des tâches bien définies.
Voilà, bah en fait, on avait, en fonction de chacun, on avait réparti peut-être un mur pour un groupe qui avait travaillé.
Donc, il y avait une discussion entre les élèves, forcément.
Et bah oui, il avait fallu se mettre d'accord sur les plans pour que les murs, à un moment donné, se retouchent, hein, parce que si on fait un mur, faut que ça puisse correspondre. Donc, il y a eu tout ce travail-là en amont pour que, au moment de la construction, ça se pose moins comme souci.
Voilà.
Et puis après, il y a des soucis inhérents à chaque bâtiment, parce qu'on a des bâtiments qui sont rectangulaires, on a des choses qui sont un peu différentes. On avait des phares bretons, donc il a fallu travailler sur l'arrondi, c'est un peu compliqué. Voilà. Mais voilà, donc ça a amené tout un tas de choses. Et l'intérêt du collectif, ça veut dire que on avait des enseignants qui avaient à un moment donné un problème, mais il y avait toujours une possibilité de trouver une solution, de faire appel à quelqu'un, de trouver une idée. Et surtout, moi, ce qui m'a le plus, c'est que j'étais peut-être expert en Mindtest, mais les collègues m'ont apporté plein de choses sur des idées d'outils pédagogiques, comment l'utiliser, comment le mettre en œuvre, ou apporter comment le faire vivre aux élèves.
Et c'est très séduisant, ça donne envie. Est-ce qu'il y a une suite ?
Alors, il y a une suite, puisque quand on l'a fait, moi, au final, l'idée, c'était de pouvoir faire une frise la plus complète possible. Donc quand on l'a proposé, j'avais dit on essaiera que ça continue. On a présenté le 11 juin au congrès et on avait fait sur un Twitter, on avait parlé du projet. Et il y a des collègues qui ont dit ça nous intéresse, on aimerait bien en savoir plus. Donc j'ai déjà 7 ou 8 collègues qui seraient intéressés pour commencer l'année prochaine, donc qui ont envie de se lancer. Et en fait, les collègues de cette année qui ne connaissaient rien l'année dernière sont prêts à repartir parce que j'en ai au moins 7 sur les 9 qui vont se démarrer. Et qui ont envie d'aller encore plus loin, peut-être de faire d'autres bâtiments, et même de travailler peut-être à 2 classes sur un, ou 3 classes sur un seul bâtiment.
Voilà.
Donc travailler encore plus sur la collaboration.
Super projet, en tout cas. Donc si on veut en savoir plus,
là-dessus. Sur Twitter, il y a un compte maintenant dédié qui s'appelle @mindstory2020.
D'accord.
Et puis il y a un site internet Mindtest assez Dijon. Alors faut chercher un petit peu sur internet, mais on va publier un certain nombre de choses pour le mettre en avant. Voilà, sachant que l'idée derrière, c'est qu'on peut découvrir le projet, on peut aussi se lancer et découvrir un petit peu l'utilisation pédagogique de Mindtest. Qu'est-ce qu'on peut en faire du simple dans la classe à des projets un petit peu plus importants.
Plus ouais. Très beau projet en tout cas.
Bravo.
Et ben merci beaucoup.
Merci à toi Julien.
Merci à toi.
Et ben on va passer à côté, je vois que Léo est arrivé. Bonjour Léo.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Pas de soucis, dis-nous alors Léo, on en profite.
C'est le grand départ,
c'est le live, c'est ça.
Avant que tout le monde parte, je voulais dire que j'étais hyper impressionné par le projet qui a été présenté avant. Enfin, c'est vraiment fou. Ça fait longtemps le primaire pour moi, mais j'aurais bien aimé avoir tout ça à disposition. Et ouais, bâtir des pyramides ou des temples grecs en primaire.
C'est ton. Parle un tout petit peu plus près du micro.
Ça m'aurait énormément plu.
Voilà. C'est ton premier Ludovia, c'est ça?
C'est mon premier Ludovia à titre personnel. Vita Science, donc la structure que je représente, c'est la deuxième fois. D'accord. Mais l'année dernière, j'étais pas là. Donc là, oui, c'est ma première fois.
Des projets très riches.
Après, moi, je suis d'Occitanie, donc. Je découvre pas Axel Terme.
Bon, Léo, c'est qui alors? Présente-toi.
Léo, c'est un jeune homme qui vient d'avoir 25 ans, qui vient de finir ses études à Supaéro, donc à Toulouse, école d'aéronautique, et qui a décidé, bon, j'arrête de parler de moi, la troisième personne, et j'ai décidé de monter ma boîte dans l'éducation qui s'appelle Vita Science. Et donc l'objectif de Vita Science, c'est de démocratiser l'accès aux sciences pour les jeunes. C'est parti en fait d'un constat que j'ai fait en me rendant dans des classes en région toulousaine, puisque je faisais du tutorat dans le cadre de mes études d'ingénieur. Mmh. Je me rendais dans des collèges et des lycées et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'élèves qui avaient du mal à appréhender les concepts scientifiques et numériques et que grâce à la pratique, grâce à l'expérimentation, ils arrivaient plus facilement à imprégner des concepts théoriques.
D'accord, donc concrètement Vita Science alors
c'est. Et donc concrètement l'idée ça a été de développer avec des enseignants en collaboration des projets pédagogiques. Ouais. Le premier ça a été d'imaginer une montgolfière solaire. Mm-hmm. qui pourrait s'envoler, qui serait construite par les élèves et qui pourrait s'envoler avec des capteurs. Donc une activité à la fois scientifique, donc sur la SVT, sur la physique, la techno, les maths, qui mêlerait un petit peu toutes les disciplines, accessible du cycle 3 jusqu'à la terminale. Et qui permettrait donc à tous les élèves, même ceux qui ont des difficultés avec le théorique, de s'imprégner des différents concepts.
D'accord. Donc la société récente, en
même temps. Oui, c'est ça. Le projet, en fait, ça fait 3 ans et demi, mais la société elle-même a 1 an et demi. Ça correspond au moment où je me suis mis à plein temps, c'est-à-dire à la fin de mes études. Avant ça, c'était un peu un projet dans le cadre de mes études.
D'accord.
Et voilà, ouais, ça a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on a un deuxième projet qu'on propose aux enseignants.
En fait, t'as un kit en fait, que tu proposes avec des tutoriels, avec des séquences pédagogiques, c'est ça?
C'est ça, on a des séquences pédagogiques.
Clé en main, etc.
C'est clé en main. Le ballon solaire, donc c'est la première, avec une station météo, comme
même
je disais.
Même si des enseignants qui n'ont aucune connaissance
peuvent y accéder, c'est ça. Et nous, on accorde un certain soutien à tous les enseignants qui veulent mettre en place le projet. Donc des fois, il y en a qui sont très autonomes et qui se débrouillent, qui préfèrent faire ça en autonomie. Et il y en a qui, au contraire, ont envie d'avoir beaucoup d'échanges avec nous. Et nous, on est là justement pour les accompagner sur l'année, pour faire en sorte que ça se passe bien et qu'ils arrivent au bout.
Donc il y a une partie programmation.
Alors c'est ça, il y a une partie programmation. Au début, on n'avait pas forcément l'idée que la programmation prendrait autant de place dans l'activité.
Ouais.
Quand on a commencé, mais on s'est rendu compte sur le terrain que énormément d'enseignants avaient ce besoin-là. C'est rentré dans les programmes au collège. Là au lycée, ça fait ça rentre encore plus profondément avec la nouvelle matière SNT en seconde. Mm-hmm. Et donc voyant ce besoin très très fort des enseignants, on a décidé d'investir beaucoup d'énergie et de ressources dans cet aspect numérique programmation. C'est pour ça qu'on a sorti une interface qui est accessible donc, sur le site Vita Science qui permet d'apprendre à programmer.
D'accord.
Mais on n'avait pas déjà d'autres interfaces qui existaient déjà?
Alors si, on n'est pas les premiers. Hein,
Mais c'est vrai que c'est justement dans cette jungle un petit peu au code, on voit partout un petit peu en ce moment. Comment se démarquer?
Pour avoir des repères, j'aime bien revenir un petit peu aux fondamentaux. Donc un langage informatique, ce qui permet donc de communiquer avec une machine, il en existe des centaines. Et globalement, c'est basé sur du texte. C'est-à-dire qu'on va donner des instructions sous forme d'un texte à une machine qui va les comprendre et les exécuter. On peut citer plusieurs langages, les plus connus étant Python, C++, Java, PHP, pour en citer que quelques-uns, il y en a plus de 200. C'est comparable aux langues humaines, on peut en citer plusieurs. Et donc actuellement, en France, on a fait le choix de s'orienter vers un langage qui est Python, et ça se matérialise surtout au lycée. Mais pour les classes un peu plus jeunes, un langage écrit, textuel comme ça, ça peut être un peu complexe à appréhender. Et donc là, c'est les Américains qui ont eu une idée que je trouve extraordinaire, qui est Scratch, que aujourd'hui presque tout le monde connaît, qui est une solution où en fait on ne va pas écrire de texte, on va juste organiser des blocs, un peu comme un puzzle, une fois assemblé, va générer le programme qu'on va pouvoir exécuter.
Alors comment Vitation se démarque justement par rapport à ça, c'est ça
Et donc Scratch est devenu la référence en, en primaire et collège, hein, qui est vraiment indiscutable. Tous les enseignants...
c'est même au brevet des collèges.
C'est même au brevet des collèges, exactement. Et, mais pour autant, Scratch est limité dans la mesure où à un moment, on doit dépasser les blocs pour arriver à réellement le code qu'il y a derrière, à savoir Python ou autre. Mm-hmm. Et donc VitaScience, l'idée qu'on a eue, c'est de développer une interface qui fait la transition de Scratch vers Python, justement. Donc d'un langage basé sur des blocs qui va être très pratique pour commencer, pour débuter, mais qui va avoir ses limites à un moment. Et de faire une traduction de ce langage Scratch vers un langage textuel qui est plus compliqué, mais du coup, grâce à la traduction, on va pouvoir s'y retrouver plus facilement. C'est ça. Et donc cette interface-là, on a décidé de la mettre en ligne. Au début, elle était réservée à nos utilisateurs, puisqu'on voulait avant tout répondre à un besoin des utilisateurs du ballon solaire, notre kit. Et il se trouve que ça a rencontré un tel succès qu'on a décidé de l'ouvrir à toute la communauté enseignante. Et donc, n'importe qui peut accéder gratuitement à l'interface VitaScience sur le site vitascience.com. C'est écrit avec deux T, V-I-T-T-A. Science.
On va en préciser.
Voilà. Et donc cette interface-là, bah, je vous invite à l'essayer. Et nous, on est là pour fournir des retours, aider les enseignants, éventuellement faire des formations à distance si besoin.
Donc cette interface est compatible avec plusieurs cartes de programmation, c'est ça?
C'est ça, exactement. Donc l'interface est compatible avec les deux cartes les plus connues en France actuellement, à savoir Arduino et Microbit. Mm-hmm. Microbit est un peu plus récente, mais elle est en train de vraiment prendre de l'ampleur en France. Et Arduino, elle est un peu plus installée. Voilà, donc c'est les deux cartes auxquelles on a décidé d'accorder la priorité puisque c'est les plus utilisées. Si jamais il y a d'autres cartes qui arrivent, bien sûr l'interface s'adaptera. Et il y a également une troisième interface qui est dédiée à Python dans le navigateur.
Ouais.
Donc là l'idée c'est vraiment d'avoir un retour, on peut exécuter des commandes, mais c'est pas dédié à un microcontrôleur, c'est vraiment pour faire avec l'ordinateur seul.
D'accord. Et si là je te dis un prof de collège qui utilise Scratch ou équivalent, qui programme une carte, comment tu peux le convaincre de passer justement à l'invitation justement à ton interface?
Alors
t'es piège ma question.
Elle est un peu piège. Là actuellement le véritable pivot nous sur lequel on essaie de s'appuyer, c'est la nouvelle matière SNT en seconde.
Ouais.
Puisqu'en fait cette matière c'est le moment charnière où ils doivent faire la transition de Scratch vers Python. Et donc en gros les enseignants ils ont le choix entre soit les faire continuer un peu sur Scratch mais ensuite les passer sur Python, ou alors les mettre directement sur Python, ce qui est un peu l'équivalent du plongeon dans le grand bain quand on veut apprendre à nager.
Ça fait un peu rude quand même.
Ça fait un peu rude. Et du coup l'interface VitaScience va pouvoir apporter une solution dans la mesure où on va avoir les deux, avec un environnement où on va progressivement pouvoir passer dans un mode où on va éditer du Python seul, mais d'abord on va pouvoir voir l'un et l'autre avec une traduction. Donc nous on est en train de se focaliser vraiment sur la seconde, avec l'idée de devenir l'interface de référence pour la seconde puisqu'on répond à ce besoin de transition entre Scratch et Python.
Ouais.
Et après progressivement découler vers le haut, vers la première et la terminale pour des usages plus spécialisés en Python, et vers le bas, vers le collège, pour des usages plus Scratch.
J'allais dire plus bas même encore en primaire.
Et éventuellement primaire, c'est vrai qu'aujourd'hui des enseignants de primaire il y en a peu qui se lancent dans l'aventure. Mais ceux qui
t'en avais deux, t'en avais une à côté, tu vois.
Il y en avait deux juste à côté. Et ceux qui le font en général ont des bonnes surprises parce que Scratch est et finalement assez adaptable. Mm-hmm. Il y a forcément une barrière à l'entrée pour le début, hein, mais comme tous les apprentissages en fait.
Ouais, ouais.
Mais une fois qu'on s'y met, et notamment avec Microbit qui je pense est la carte la plus adaptée pour le primaire, on a assez vite les notions en main et on arrive à faire des choses intéressantes.
C'est pas moi qui vais te contredire.
Et donc si on veut en savoir un peu plus sur VitaScience et tester l'interface,
L'interface
le matériel.
Est accessible, gratuite, pas besoin de créer un compte, il suffit d'aller en ligne.
C'est ça qui est aussi intéressant, c'est que t'es complètement en ligne. Donc,
oui, c'est ça, oui.
Ça tranchit des multitudes d'installations qui est compliquée souvent en collège et en lycée. Donc,
Et pour peu que le réseau internet
fonctionne, dans l'ensemble.
Bon, on va dire que dans l'ensemble, en moyenne, on a un bon réseau internet en France.
Donc vitascience.fr, vous avez dit
.fr, .fr, .com, on a tout réservé, donc vous pouvez taper ce que vous voulez. Le vrai, c'est .com, mais .fr marchera aussi.
Merci en tout cas.
Ouais,
merci d'avoir accepté l'invitation et d'avoir répondu à nos questions.
Merci à toi. Bonne soirée.
Merci.
Seb, première journée, premier live, qu'est-ce que tu en... Hein, Rich, une heure d'émission.
Voilà, une petite heure d'émission. Alors, comme d'habitude, hein, vous l'aurez entendu, c'est vers la fin qu'on nous a... que l'apéro chantant est
dans le...
c'est arrêté, hein. Mais voilà.
C'est ça, device, c'est la bonne humeur, l'apéro. Hein. Il n'y avait pas, l'image, mais il y en avait certains qui avaient un petit verre à la main en arrivant.
Voilà, mais c'est toujours l'esprit sympa. Après... on regrette de ne pas avoir fait l'émission hier, mais c'était absolument impossible par rapport aux conditions météo. Ouais.
Parle un peu plus près, n'hésite pas de micro.
T'es sûr, parce que là, c'est... j'aime pas ça.
Donc, hier, c'était assez catastrophique sur l'ensemble de Ludovia. Demain, ils annoncent très beau, donc on devrait avoir une deuxième émission aussi riche
voilà.
que celle-ci, je pense.
Surtout que demain, en plus, on sera moins pris par les Explore Camp qu'on a présenté avec Jeff, donc on a d'autres choses à vous présenter. Voilà,
c'est ça, c'est direct. En tout cas pour dire, on est au milieu vraiment de ouais, comment on dit ça, du parc de Ludovia, donc forcément il y a du monde autour qui mange, qui boit, qui discute. C'est ça Ludovia, c'est la bonne humeur et des rencontres, voilà, et du partage.
Donc on se donne rendez-vous à demain.
À demain Seb.
À demain Jeff.
Ciao, bonne soirée.